Bonsoir à toutes et tous. Il y a un tout petit peu plus d'un an, les Américains et le monde entier étaient en état de choc en découvrant en direct sur toutes les chaînes d'information et les réseaux sociaux. Pardonnez-moi, je vais la reprendre parce qu'il fallait que j'enlève le masque. Bonsoir à toutes et tous. Il y a un tout petit peu plus d'un an, les Américains et le monde entier étaient en état de choc en découvrant en direct sur toutes les chaînes d'information et les réseaux sociaux les images de l'invasion par les partisans de Donald Trump du centre névralgique de la démocratie américaine, le Capitole. Un an après ce 6 janvier qui restera sûrement gravé dans l'histoire américaine, où en sont les États-Unis? C'est la question qu'on va poser ce soir à l'occasion des mardis d'éthique publique du centre Sèvres dont RCF est partenaire. François Heuvet et Jean-Luc Poutier vont à la fois conclure et introduire cette soirée. Jean-Luc Poutier, je vous laisse le soin de poser les enjeux de la question qui nous rassemble ce soir.
Merci Philippe. À Washington, comme vous venez de le rappeler, le 6 janvier 2021, cela fait une année, une troupe de manifestants a envahi le Capitole, siège du Parlement et symbole de la démocratie des États-Unis. Ces émeutiers répondaient à un appel de Donald Trump, président sortant. Ils tentaient d'empêcher la proclamation de la victoire du candidat démocrate, Joe Biden, lors des élections de novembre précédent. Bilan, 5 policiers et une manifestante tués et 140 blessés. À l'occasion du premier anniversaire de cet événement, l'actuel président américain Joe Biden a prononcé un discours offensif où il a évoqué à plusieurs reprises la responsabilité de Donald Trump dans la tentative de coup d'État, mais sans jamais citer son nom. Et il a assuré que de tels faits ne se produiraient plus jamais. Est-ce si sûr? Un an après, l'attaque contre le Capitole ne semble pas avoir affecté la popularité et l'influence de Donald Trump. Sa base électorale est toujours solide et parmi ses partisans, l'influence des suprémacistes blancs ne cesse de croître. Qu'elle soit qualifiée de populiste ou de fascisante, l'extrême droite trumpiste est désormais bien installée au sein du Parti républicain américain, sans qu'apparaissent des possibilités de réduction des fractures sociales et politiques accentuées, mais pas créées par la présidence Trump. À l'extérieur, la difficile évacuation des troupes d'Afghanistan a semblé marquer un nouvel affaiblissement de la puissance américaine. Là aussi, est-ce si sûr? Ces derniers jours, les 9 et 10 janvier 2022, la rencontre à Genève entre diplomates russes et américains au sujet de l'Ukraine et de l'OTAN a exhalé un fumet de guerre froide, évocateur pour les plus anciens, mais anachronique dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. La Russie déploie un rideau de fer rouillé dans son périmètre de sécurité, tandis que les États-Unis oublient comme souvent leurs alliés européens dans l'affirmation de leur leadership au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Aussi paradoxal que cela paraisse, l'incertitude des lendemains provient aujourd'hui autant des États-Unis que des périphéries du monde d'hier. Qui l'eût imaginé à l'époque pas si lointaine de Ronald Reagan? Il est temps donc de se demander où en sont les États-Unis, un an après l'assaut contre le Capitole, sur le plan domestique et dans le monde.
Merci Jean-Luc. Alors pour creuser cette question, deux invités ce soir. Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales, auteur aussi du podcast New Deal chez Slate.fr et toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et à vos côtés, Laurence Nardon, Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Vous venez de publier, Michel Duclos, en 2021, « La France dans le bouleversement du monde » aux éditions de l'Observatoire. Alors, Laurence Nardon, j'aimerais qu'on démarre avec vous. Où en sont les États-Unis un an après l'invasion du Capitole?
Bon, ah oui, ça marche, en effet. Bonsoir, vraiment, merci beaucoup de me recevoir, je suis très contente d'être là. Donc je vais pas parler trop longtemps, mais juste essayer de poser le panorama de la politique intérieure américaine tel qu'il se présente aujourd'hui, et commencer effectivement par la certaine déception que l'on a au bout d'un an de présidence Biden. Parce que si on se reporte il y a un an au lendemain des terribles événements du 6 janvier, on avait eu à ce moment-là, en tout cas, moi c'était mon impression, un moment presque d'optimisme sur la démocratie américaine, parce que finalement, ces événements absolument insensés, tragiques et horribles du 6 janvier s'étaient soldés par... c'était réglé de manière assez positive sur le moment. C'est-à-dire que par rapport à face à ce président qui ne voulait pas rendre le pouvoir, je parle de Trump, eh bien, tous les contre-pouvoirs qui sont prévus depuis 1787 par la Constitution américaine, eh bien, tous ces contre-pouvoirs avaient tenu. Je parle par là des élus qui n'avaient pas voulu suivre le président, et y compris Mike Pence, qui agissait ce jour-là en tant que président du Sénat, mais aussi les cours de justice, les 60 recours déposés par les partisans de Trump avaient tous été rejetés par les cours, y compris la Cour suprême. Les élus dans les États, même les élus républicains, avaient également refusé de suivre le président. Et donc, on avait eu, si vous voulez, dans cet équilibre des pouvoirs qui a été mis en place par les pères fondateurs en 1787, ce qu'on appelle le « check and balances », eh bien, un pouvoir qui essaye d'avancer et les autres qui font barrage. C'est ce que prévoit la Constitution américaine. Ce moment d'optimisme, il était renforcé parce qu'on avait Biden qui arrivait et qui... ce vieux monsieur si sympathique avait promis de réconcilier l'Amérique, d'apaiser le débat. Lui-même semble d'une nature assez calme et bonhomme, donc ça semblait très bien parti. Donc on a eu un moment d'optimisme. En tout cas, c'est la faute que je vous avoue ce soir. Hein, parce que évidemment, ça n'a pas duré. D'une part, parce que côté républicain, eh bien, les élites du parti qui avaient semblé rompre avec Trump au lendemain du 6 janvier, en fait, se sont ravisées assez rapidement. Alors, on pourra revenir là-dessus plus tard, mais c'est sans doute parce que la base républicaine, elle, reste très attachée à Trump. Et puis, d'autre part, sur Biden, eh bien, son bilan n'est pas mauvais. On peut le détailler un peu plus longuement, mais il a quand même du mal parce que il fait face non pas à une opposition qui serait les républicains, mais il fait face dans son travail, dans son ambition de président, à trois oppositions, parce que il y a les républicains qui sont vent debout contre lui et qui d'une certaine manière préfèrent qu'il rate ce qu'il a entrepris et que l'Amérique aille plus mal plutôt que de le voir réussir. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème d'esprit civique là-dedans. Et puis, au sein du Parti démocrate, il a, là aussi, deux oppositions, donc ça fait trois en tout, avec d'une part une gauche du parti très progressiste, ils se définissent eux-mêmes comme des socialistes, ce qui, dans le contexte politique américain, est un très très gros mot, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etc., donc qui sont très très à gauche, et qui surveillent comme du lait sur le feu ce que fait ou ne fait pas le président Biden. Mais ce dernier doit également faire face aux modérés du parti qui pensent qu'il va beaucoup trop loin dans ses projets. Et je pense évidemment à deux sénateurs dont on cite le nom régulièrement dans la presse, qui sont des sénateurs démocrates modérés. Il y a Joe Manchin et Kirsten Sinema. Joe Manchin est de Virginie et Kirsten Sinema est d'Arizona. Et qui mettent des bâtons dans les roues au Sénat au projet de loi que le président essaye de passer. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a bien du mal à faire passer ces projets de loi qui sont assez ambitieux. Joe Biden, je terminerai là-dessus, essaye de faire passer des lois de relance, alors déjà relance de l'économie post-Covid, mais aussi une relance sur les infrastructures environnementales, sur ce qu'il appelle les infrastructures humaines, c'est un troisième élément, qui sont tout ce qui concerne la petite enfance, l'éducation, le congé maternité, etc., pour remettre en route l'ascenseur social. Et avec ces projets qu'il essaye péniblement de faire voter, on voit que ce président, qui a fait campagne comme un modéré, est en réalité assez à gauche parce qu'il essaye de faire passer des lois qui signent ou qui sonnent la fin de 40 ans de libéralisme économique réaganien aux États-Unis. C'est-à-dire que les projets de loi que Biden essaye de passer sont très keynésiens. C'est vraiment de la relance à coût d'investissement public. Et ça, depuis 40 ans aux États-Unis, c'était vraiment devenu impossible. Donc là, il y a un énorme tournant politique là-dessus, en tout cas dans le projet de Biden. Il a réussi à en faire voter une partie, mais sur la suite, ça va être certainement beaucoup plus dur. La dernière difficulté de Biden, c'est qu'il est à la traîne dans les sondages. Il a à peu près 42% d'approbation de son travail, ce qui pour un président américain est très peu. Aucun président n'a été aussi bas dans les sondages à un an après son élection. Aucun, sauf Trump, qui était encore plus bas que Biden. Et Biden est second dans le grand palmarès des présidents américains. Donc ça, c'est pas bon. Et ça date de cet été, avec le départ complètement chaotique d'Afghanistan, qui a été un peu le déclencheur de sa chute dans les sondages, et avec la mention de l'Afghanistan, j'ai une transition habilement trouvée pour donner la parole maintenant à Michel Duclos.
Merci. Oui, merci Laurence Nardon, parce qu'effectivement, Michel Duclos, je rappelle, vous êtes ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, et de votre point de vue de diplomate, spécialiste de géopolitique, comment vous analysez l'évolution un an après l'assaut du Capitole des États-Unis du point de vue des relations internationales, justement, Michel Duclos?
Merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, je dirais d'abord, ce qui est peut-être un truisme, une banalité, c'est que Biden s'inscrit tout à fait dans la trajectoire de ses prédécesseurs, Obama et Trump. En politique internationale, c'est avant tout un continuateur. Et notamment sur trois points, la priorité donnée à la politique intérieure par rapport à la politique internationale, même si c'est formulé de façon peut-être un peu différente et plus moderne, avec l'équipe de Biden, il y a cette idée d'une politique étrangère pour la classe moyenne, mais c'est bien la même notion de priorité donnée à la politique intérieure. Deuxième point, la volonté de désengagement, non pas partout ni complète, mais en tous les cas, de limiter les engagements militaires le plus possible et de ramener les troupes à la maison. Et enfin, le troisième point de continuité fort, c'est la Chine, car au fil de ces dernières années, d'abord Obama avait essayé de lancer le pivot vers l'Asie, et Trump avait dramatisé l'opposition systémique, géopolitique, commerciale et autres avec la Chine, qui est devenue au fil des années presque le seul point de consensus de la classe politique et de l'opinion américaine, dont par ailleurs Laurence a noté à quel point elle était devenue fracturée. Alors, il ne faut pas pousser la continuité trop loin, il y a évidemment des fluctuations, des accents différents. S'agissant de Biden, par exemple, il est clair qu'il a retrouvé avec l'Europe et sur le terrain du multilatéralisme une attitude plus classique avec laquelle Trump avait complètement rompu. Et donc Trump était un ennemi déclaré de l'Europe et de l'Union européenne en particulier. Il tolérait à peine l'OTAN. Biden, c'est le retour évidemment d'un atlantiste classique. D'abord orienté vers l'OTAN, son conseiller national à la sécurité, Jake Sullivan dit le seul acronyme que connaît le président, c'est NATO. Donc voilà une grande différence, l'Europe et le multilatéral. Peut-être une autre différence, cette fois-ci par rapport à Obama, c'est que au fond, Biden, c'est un Obama qui passe aux actes. Et notamment, s'agissant de l'Asie, le retrait d'Afghanistan, on pourrait dire que ses deux prédécesseurs en ont rêvé, lui, il l'a fait. L'une des premières choses qui, en politique étrangère, que son administration a accompli, ça a été de donner beaucoup plus de vigueur et d'éclat au G4 Indo-Pacifique. Donc ce conseil qui réunit le Japon, l'Australie, l'Inde et les États-Unis. Les premiers hommes d'État qui auraient été reçus à la Maison-Blanche, c'était le Coréen du Sud et le Japonais. Ce n'était pas le Britannique, le Français, etc., comme c'était l'habitude. Et puis, il y a l'affaire des sous-marins australiens qui montre là aussi un réengagement avec cette idée, si vous voulez, si on se retire d'Afghanistan, c'est pour mieux s'engager face à la Chine et donc, par exemple, à travers l'Australie. Alors, ayant dit tout cela, j'en arrive moi aussi à parler de déception, car si on fait la somme de cette première année de politique étrangère de Joe Biden, on a quand même le sentiment que il n'y a pas eu beaucoup de succès, ni surtout beaucoup de vision vraiment articulée. S'agissant de la stratégie vis-à-vis de la Chine, j'ai mentionné les sous-marins australiens, mais à part ça, sur le plan commercial et autres, il y a une continuité, il y a parfois d'ailleurs un durcissement, mais on n'a pas le sentiment qu'il y ait une politique très systématique d'engagement et de résistance qui était mise en place. Sur le plan du multilatéralisme, oui, Biden a fait en sorte que les États-Unis rejoignent l'accord de Paris, par exemple, ça c'est pas négligeable. Mais s'agissant de l'accord nucléaire avec l'Iran, qui était aussi une façon de renouer avec le multilatéralisme, son administration a paru tarder, hésiter, et finalement, comme vous le savez, les négociations nucléaires avec l'Iran apparaissent plutôt mal parties. De même, au fond, pour rester dans le créneau du multilatéralisme, la grande affaire des enjeux mondiaux actuels, c'est évidemment la pandémie, c'est la Covid. Et là, on ne peut pas dire que l'Amérique apparaisse comme un leader de la réaction de la communauté internationale. Évidemment, c'est mieux que Trump. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais ce n'est quand même pas très spectaculaire. Et pour dire les choses simplement, ce n'est pas à la hauteur des défis. Pour ce qui est de l'Europe, la visite que le président Biden a effectuée en Europe au printemps dernier a été une sorte de visite de renouer les contacts. Les grands-messes avec l'Alliance Atlantique, etc., se sont remis en marche. Ça n'a pas eu énormément de substance. Et là aussi, il faut pas être catégorique, il y a des nuances. Avec l'Union européenne, a été mis en place un nouveau mécanisme de consultation qui s'appelle Trade and Technology Commission, qui est peut-être l'élément le plus nouveau au fond, mais qui jusqu'ici, lui aussi, n'a pas donné de résultats spectaculaires. Et là, on en arrive à l'actualité immédiate. On voit bien que dans l'affaire ukrainienne, les réflexes de toujours des États-Unis fonctionnent. C'est-à-dire, oui, on consulte les alliés. Hein. Il y a des coups de fil qui sont passés, l'OTAN est associée, mais ça reste fondamentalement l'Amérique qui décide. Et l'Amérique qui négocie avec la Russie. Et donc, au fond, moi-même dans mon bouquin que j'ai terminé au mois de juin, je disais, là aussi je rejoins Laurence dans les espoirs qu'avait soulevé Biden, on s'attendait à un vieux monsieur. Un peu somnolent, on a un nouveau Roosevelt. Et effectivement, il y a eu à un moment donné, il y a eu ce sentiment-là. Avec, sur le plan international aussi, quelque chose dont je n'ai pas parlé, cette idée de conférence pour la démocratie, qui était donc de remobiliser les démocraties du monde face aux autoritarismes, qui était un des axes du président. Et en réalité, eh bien, un an après, non, ça s'est un peu dilué ou dissipé. Et on a un président qui fait son âge, pour dire la vérité, et qui, sur la scène internationale, ne fait pas tellement mieux que ses prédécesseurs, paraît aussi dépassé. L'impression aussi qu'il rétablirait un certain professionnalisme en politique internationale, rompant avec l'amateurisme un peu scandaleux de Trump. Là aussi, ça a vite atteint ses limites. Par exemple, en Europe, il est frappant de voir qu'il n'y a qu'un seul ambassadeur nommé auprès de l'OTAN, mais il n'y en a pas dans toutes les autres capitales européennes. Alors ça, ce n'est pas directement de la faute de l'administration Biden, c'est aussi à cause des blocages du Congrès, donc du Parti républicain, mais tout cela contribue quand même à l'impression de déception.
Bienvenue sur RCF. Si vous nous rejoignez, nous avons placé nos studios ce soir au Centre Sèvres, la faculté jésuite à Paris, à l'occasion des mardis d'éthique publique. Un an après l'assaut du Capitole, où en sont les États-Unis? C'est la question qu'on se pose ce soir avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales, et Michel Duclos, ancien ambassadeur conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Laurence Nardon, je pense, qui a frappé le monde lors de cette fameuse journée du 6 janvier, l'assaut au Capitole, c'est la fracture de la société américaine. Sensation qu'on en avait pu avoir déjà lors de la première élection de Trump face à Hillary Clinton, qu'on a ressenti suite au résultat de l'élection en novembre 2020 de Biden. Et puis il y a eu ce point majeur de l'assaut du Capitole. Un an après, cette société divisée, fracturée, au bord de la guerre civile, hein, c'est l'impression qu'on pouvait avoir. Et elle en est où? Parce que vous connaissez bien de l'intérieur les États-Unis, vous l'avez étudié, vous avez même publié en 2018 un ouvrage baptisé Les États-Unis de Trump en sans question. Que dire de cette société qui semblait complètement fracturée, divisée, irréconciliable?
Oui, alors le terme qu'on emploie très souvent, c'est polarisé. Une société où tout est politisé à l'extrême, où on parle plus à ses voisins quand ils sont pas du même camp, où il semble que les modérés ont disparu. Alors c'est très très net à droite avec les Trumpistes, comme on les appelle. Je vous rappelle que actuellement, dans les sondages qui donnent tous à peu près le même résultat, 68% des Américains qui se disent républicains, donc 68% des républicains, pensent que l'élection de novembre 2020, donc l'élection qui a vu Biden gagner, ils pensent que cette élection leur a été volée par les démocrates à l'issue d'une fraude électorale massive organisée par les démocrates dans le pays.
Donc la sensation de fraude a été confirmée, enfin, est vraiment ressentie encore par une majorité d'Américains,
Par
enfin de
une majorité
républicains en
de
tout cas, de
républicains,
républicains.
et je pense, enfin, on ne peut que les croire sincères dans cette impression. Donc ça, c'est vraiment complètement délirant. De l'autre côté, côté démocrate, il y a aussi un clan progressiste qui est très remonté aussi. Alors sans doute moins. Après, il y a énormément d'études de sociologie qui font des études sur ces deux parties de la population pour montrer laquelle est le plus prête à en découdre, lequel a le plus quitté la réalité et laquelle, entre républicains et démocrates, est le plus susceptible, par exemple, de croire les thèses complotistes QAnon. Par exemple, vous avez peut-être entendu ce mot, c'est une théorie du complot. QAnon, ça s'écrit QAnon, et c'est une théorie du complot absolument délirante qui a beaucoup de succès donc à la droite de l'échiquier politique américain et qui pense que les démocrates sont finalement des satanistes pédophiles qui mènent le monde dans une sorte de cabale délirante. Et enfin, j'emploie des termes qui prêtent à sourire, mais ces gens-là sont là aussi très sincères dans cette croyance. Bref, on a donc une société totalement déchirée avec cette insurrection il y a un an. Alors, on parle de guerre civile, de possibilité de guerre civile. Tout est possible, hein. Il y a eu une guerre civile aux États-Unis il y a 150 ans, qui est l'un des premiers conflits modernes les plus violents. Donc, on ne va pas dire que ça n'est pas possible. Bon, c'est un pays qui a beaucoup de résilience et qui a des institutions solides. Je ne sais pas trop quoi dire. Je pense qu'il y a des gens très violents à droite et signaler aussi que du côté gauche, il y a quand même aussi une tradition de violence urbaine en marge des manifestations antiracistes qu'il y a eu, par exemple, à la suite de l'assassinat épouvantable de George Floyd. Vous vous rappelez cet Africain-américain qui a été assassiné par un policier blanc avec une vidéo atroce que vous avez peut-être vue. Bon, c'était en mai 2020. Excusez-moi.
Avec le mouvement Black Lives Matter.
Voilà. Et donc Black Lives Matter a organisé d'énormes manifestations antiracistes, très bien. En marge de certaines de ces manifestations, il y a eu quand même des black blocs avec un certain nombre de destructions, de violences. C'était à Minneapolis et aussi à Seattle. Donc voilà où nous en sommes.
Comment quand même expliquer le comportement des élus républicains? On est quand même dans une grande démocratie, des responsables politiques de haut niveau. Certains... s'était prononcé au moment pour condamner l'assaut, mais in fine, en fait, un an après, beaucoup d'élus républicains, comme la majorité des électeurs, regardent cet événement du 6 janvier comme un non-événement. C'est quand même curieux de la part de cette classe politique américaine républicaine.
Bah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un certain opportunisme de leur part. Ils voient que la base continue à croire ça, donc ils veulent pas... Enfin, il y a un manque de courage chez certains de ces élus qui me semble tout à fait consternant. Mais pour juste un mot pour dire... Parce qu'on parle donc de cette polarisation, de cette violence qui monte et on ne sait pas où ça va aller. Je voudrais remonter aux origines possibles, parce qu'on réfléchit beaucoup aux raisons pour lesquelles la société américaine s'est polarisé autant en termes politiques. Alors, il y a beaucoup de raisons, mais je voudrais en pointer juste une qui me semble très importante, peut-être la première, c'est la modification du paysage médiatique aux États-Unis. Dans les années, c'est ce qui s'est fait en plusieurs temps. Le premier, c'est dans les années 80, sous Reagan. Alors, donc, on était en plein libéralisme, il fallait déréguler, il fallait supprimer toutes les règles et les codes et les entraves à l'expression, à la libre expression. Et donc, en 87, l'administration Reagan a supprimé le code éthique de la radio. Et ce qui a eu des conséquences terribles, parce que ça a permis aux radios de faire d'abord de se diffuser beaucoup plus pour des raisons techniques, mais aussi de faire ce qu'on appelle les conservative talk shows, c'est-à-dire des émissions avec un présentateur très conservateur qui va tenir le micro pendant 2-3 heures en invitant des gens et en disant n'importe quoi. Et il n'y avait plus d'égalité de temps de parole sur les radios. Donc ça a été un premier élément très important. Et puis ça a été suivi par les télécablés et l'apparition de télé, donc CNN au départ pendant la guerre du Golfe, mais bien sûr Fox News après. Et donc des chaînes de télé qui sont de moins en moins factuelles, mais de plus en plus des télés d'opinion, et d'opinion de plus en plus radicale, pour justement attirer un auditoire, des audiences, comme on dit, et pour lesquelles il faut présenter... Parce que le calcul, c'est qu'il faut présenter des visions de plus en plus radicales pour fidéliser l'auditoire. Et donc, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui un paysage médiatique, alors sans parler évidemment des millions de blogs et des millions de sites internet, évidemment, qui se disputent une audience... Et pour la gagner, ils radicalisent leur discours. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la société se radicalise comme ça.
Jean-Luc Poutier.
Oui, au sein du Parti républicain, il semble que Dick Cheney, qui a été jadis, si ma mémoire ne me trompe pas, vice-président de George W. Bush, ait pris position fortement contre Donald Trump. Est-ce que c'est le début d'une reconquête du parti de la part des anciens, ou est-ce que ce sera sans lendemain ?
Il y a pas mal de enfin, j'ai dit que les élus républicains étaient peu courageux, etc., et opportunistes. C'est vrai pour beaucoup d'entre eux, mais vous avez raison, il y en a certains qui acceptent de dire ce qu'ils pensent et de porter une parole juste. Beaucoup d'entre eux sont à la retraite, comme Dick Cheney, ou décident de ne pas se représenter aux prochaines élections. Mais Dick Cheney, alors deux choses, et après je laisserai la parole à Michel, mais deux choses. D'abord, ça montre bien, l'attitude d'un Dick Cheney aujourd'hui montre bien à quel point le parti s'est déporté vers la droite, puisque quand Dick Cheney était aux affaires, il était très à droite, c'était pendant la guerre du Golfe dans les années 2000, pardon, la guerre d'Irak dans les années 2000, on le trouvait déjà extrêmement à droite, et aujourd'hui il paraît presque un modéré parce qu'il attaque Donald Trump. Donc ça montre bien que le parti s'est déporté. Et Dick Cheney, attention, est le père de Liz Cheney, qui est l'une des grandes courageuses à la Chambre. C'est une élue de l'État de Washington, je crois. Je parle sous le contrôle de tout le monde, si je me trompe. Et qui tient tête à Trump à la Chambre. D'ailleurs, elle a perdu une de ses places au sein des commissions républicaines, parce que les autres républicains l'ont virée. Enfin, elle est toujours élue à la Chambre, mais elle n'est plus au caucus républicain. Voilà.
Michel Duclos, comment vous observez là aussi cette société américaine divisée, qui plus est pour une société qui a une influence majeure dans notre monde? Laurence Nardon nous parlait à l'instant de ce changement du paysage politique, du paysage médiatique aussi. On assiste à d'autres régions du monde où des démocraties aussi ont été soumises à des bouleversements politiques comme ça. Je pense bien sûr au Brésil avec le phénomène Bolsonaro qui est venu après Trump. Il y a peut-être d'autres pays. Comment vous, au regard aussi de ce qui se passe ailleurs, cette évolution de la démocratie américaine vous interpelle ?
Alors, vous avez eu la gentillesse de citer mon dernier livre sur la France dans le bouleversement du monde, mais le livre précédent, c'était un livre collectif qui portait sur les nouveaux autoritaires, où il y avait une galerie de portraits de gens qui allaient de Orban à Erdogan à Bolsonaro jusqu'à Trump, Poutine, etc. Et effectivement, il y a une sorte de continuum avec beaucoup de nuances. Naturellement, il ne faut pas tout mélanger, mais entre, disons, les populistes et les autoritaires jusqu'au totalitaire Xi. Et il est clair qu'il y a un mouvement de fond. Laurence a indiqué une des causes possibles, qui est le changement du paysage médiatique. On cite souvent aussi une autre cause, qui est l'effet de la globalisation, qui a bouleversé beaucoup les conditions de vie et de travail, notamment dans les sociétés développées, et en particulier dans ce qu'on appelle la classe moyenne. Alors, aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de chômage, ou il n'y en a pas beaucoup, mais la nature des emplois a beaucoup changé. Et les emplois se sont précarisés, sont devenus plus difficiles, etc. Et c'est ça qui déstabilise des courants entiers de la société américaine, plus le phénomène... les minorités qui démographiquement sont devenues plus importantes et qui donnent aux petits blancs le sentiment d'être remis en cause de toutes parts. Et donc il y a des phénomènes sociologiques profonds qui peuvent expliquer ça. Cependant, je dois dire, comme Laurent, je crois qu'un élément frappant de l'époque Trump, c'est que les institutions ont tenu, hein, la justice, le Parlement, l'armée aussi, qui a refusé de contribuer à tout dessein d'utilisation pour des fins politiques. Et puisque nous sommes ici réunis autour d'une préoccupation éthique, ce qui aussi est frappant, c'est que dans la démocratie, les institutions comptent, mais ne sont pas suffisantes, les mœurs sont également importantes. Et là, le Parti républicain a été quand même très décevant. Et beaucoup de grands républicains ont tourné Kazakh et se sont ralliés au trumpisme. Et même maintenant, c'est Trump qui continue à dominer le Parti républicain, ce qui est quand même assez incroyable. Et je vois avec une certaine inquiétude, pour ma part, que ces mœurs... peu digne d'une république commence aussi à se manifester au sein du parti démocrate. Monsieur Manchin et Mme Sénéma que Laurence a signalé, c'est quand même des gens qui sont élus dans des circonscriptions conservatrices et qui donc préfèrent garder leur circonscription plutôt que de voter dans l'intérêt national avec leur parti. Enfin, peut-être qu'il y a un malentendu sur Trump lui-même. Il ne faut pas oublier sur Biden lui-même. Biden, c'est quand même un président par défaut. Il a été élu par le Parti démocrate par défaut, parce que les caciques du parti ont bien vu que si on laissait les gauchistes prendre le pouvoir, on n'accéderait jamais à la Maison-Blanche. Et il a été élu par défaut ensuite à l'échelon national parce qu'il avait Trump en face de lui. Et je dirais, il avait face Trump en face de lui dans le contexte de la Covid. S'il n'y avait pas eu la Covid, c'est pas certain du tout que Trump n'ait pas été réélu. Donc c'est un président par défaut, un président presque par accident, et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a voulu devenir Roosevelt, alors qu'au fond, il n'avait pas le mandat pour ça. Et il était plutôt destiné à être un président de transition. Et c'est ce qui fait que cette erreur sur la personne fait qu'on assiste à cette pagaille politique où le Parti démocrate mène sa vie indépendamment de la Maison-Blanche. Et que l'actualité politique américaine, c'est les divisions du Parti démocrate et la revanche qui s'esquisse de Trump.
La sensation qu'on a aussi, Michel Duclos, c'est qu'apparemment Joe Biden, et Laurence Nardon l'évoquait avec à l'instant, on sait que Joe Biden est un homme de compromis. Il a passé énormément de temps au Parlement, habitué à négocier entre les démocrates et les républicains dans des commissions. On en a beaucoup parlé au moment de son élection. Là, on a la sensation qu'il est aussi en difficulté par rapport aux différentes lois qu'il veut mettre en place. Et il essaie aussi de fonctionner par compromis, se construisant de fait une opposition non seulement chez les républicains, mais comme l'évoquait tout à l'heure Laurence Nardon, aussi chez les propres démocrates plutôt très à gauche, qui disent « mais c'est de l'eau tiède, Joe Biden ». Voilà. Comment cet homme qui semblait pourtant un homme de compromis, de négociation, n'arrive pas malgré tout à... Parce que ça pourrait être une qualité, ça pourrait sembler être une qualité. Au fond, dans ce monde complètement divisé, polarisé, ça provoque presque l'inverse.
Alors, il a lui-même compris que le Joe Biden, qui pendant des décennies avait joué le compromis au Sénat, ça ne marchait plus. Et donc, assez rapidement, dans les grandes lois Build Back Better, il a dit à ses partisans, bon, essayons, mais n'insistons pas, si les autres ne veulent pas, on va y aller, on va passer en force. Donc, il s'est assez rapidement adapté. Il y a comme ça un certain nombre d'indications qui laissent penser qu'il est moins... Alors là, justement, pour l'anniversaire du 6 janvier, c'est très typique. Pendant un an, il s'est abstenu de toute attaque contre Trump, en pensant qu'il fallait tourner la page. Et là, peut-être parce que justement il est en difficulté, qu'il n'est pas très populaire, etc., il s'est mis à attaquer Trump, même s'il ne le mentionne pas. Donc on voit un personnage qui est moins le père de la patrie qu'il ne le semble au premier degré, même s'il reste évidemment quand même un président classique, soucieux de la concorde nationale. Et puis, il y a quelque chose qui est très typique, c'est l'affaire afghane. Parce que on s'est beaucoup interrogé sur la raison pour laquelle il avait précipité le retrait. Qu'il procède à un retrait, c'est ce qu'il avait toujours pensé, même quand il était vice-président d'Obama. Par ailleurs, ça correspond à une stratégie, comme je l'ai déjà indiqué, précise de réallocation des forces. Et quand même, pourquoi aller aussi vite, alors que les talibans ne jouaient pas leur partie du contrat qui avait été signé avec eux à Doha? Une des raisons profondes, peut-être, dans la psychologie du président, c'est justement le souci de la réconciliation nationale. Et il savait que cette présence des troupes à l'étranger était profondément impopulaire, et pour le coup, là, des deux côtés de la barrière politique. Et il a pu penser que même si il devrait payer un prix politique élevé sur le moment, et que ce prix aurait notamment un coût en termes internationaux, ça allait quand même dans la direction de la réconciliation nationale. Peut-être d'ailleurs que ce sera le cas dans quelques mois ou quelques années, mais pour l'instant, on voit l'effet inverse. On voit l'effet que ces Américains qui étaient pour le retrait sont en revanche furieux de la façon dont ça s'est passé, et d'où l'impopularité actuelle du président.
Où en sont les États-Unis un an après l'assaut du Capitole? C'est la question qu'on se pose ce soir sur RCF au Centre Sèvres pour les mardis d'éthique publique avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales, et Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Laurence Nardon, j'aimerais quand même vous évoquer les raisons de cette division de la société américaine. J'aimerais aussi qu'on essaie de comprendre un peu qui sont ces pro-Trump qui sont en grand nombre et qui le sont toujours pro-Trump un an après, vous l'évoquez, hein, plus de 60% des électeurs républicains qui pensent toujours que c'est, voilà, que c'est un complot, qu'on raconte n'importe quoi, que l'élection surtout a été volée. On a du mal à comprendre, vu d'Europe et depuis l'élection de Trump, pourquoi tant de monde derrière Trump, derrière ce personnage très excessif. Il l'était énormément avant son élection, il l'a été en tant que président, il a été jusqu'au bout, en dénonçant jusqu'au bout, et encore aujourd'hui, la validité de l'élection, allant presque jusqu'à un punch, parce qu'il s'en est fallu que de Mike Pence pour tenir apparemment le processus électoral. Qui sont, au fond, ces Américains qui sont toujours derrière, quand bien même on ait pu avoir l'impression que leur démocratie ait été mise en danger?
Alors oui, ça c'est une question sur laquelle se sont penchés les sociologues et les politistes depuis 2016, hein, depuis la campagne qui a vu l'élection de Trump. C'est d'où viennent ces républicains qui votent pour lui. Et avant d'y répondre, laissez-moi juste préciser que Liz Cheney n'est pas élue de l'État de Washington, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais du Wyoming. Je ne veux pas que les auditeurs repartent avec une erreur que j'aurais pu prononcer. Ma carrière en serait brisée. Bon, bref. Mais pour répondre à votre question, alors l'électorat de Trump, il y a d'abord ces élites du parti qui sont lâches et opportunistes, dont on a déjà parlé, mais enfin évidemment c'est une minuscule fraction. L'essentiel de la base de Trump, elle repose sur deux piliers que je vais vous décrire rapidement. Il y a d'une part les conservateurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aux États-Unis la droite chrétienne. Ils sont plutôt protestants, même si une partie des catholiques les ont rejoints depuis quelques années. Et ce sont des gens qui, évidemment, n'aiment pas Trump en tant que personne, parce qu'il n'est pas du tout religieux, il a une éthique pour le coup tout à fait douteuse, il a été marié plein de fois, c'est un homme qui n'a pas... Bref, il est aux antipodes d'une éthique chrétienne, je n'hésite pas à le dire. Alors, ces gens-là votent quand même pour Trump parce qu'il y a eu une sorte de deal, comme l'art du deal que Trump met en avant et dont il se présente comme un spécialiste. Le deal qu'il a fait avec eux, c'est qu'il leur nommerait à la Cour suprême des juges extrêmement traditionnalistes, pour prendre un terme français, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire, même dans le contexte américain. Et il a tenu parole, puisqu'il a nommé non pas un, non pas deux, mais trois juges à la Cour suprême pendant son mandat, des juges extrêmement conservateur, je crois même d'ailleurs qu'on pourrait dire réactionnaire en français, et donc et ce qui aboutit aujourd'hui à un compte de juges à la Cour suprême. Vous savez qu'ils sont 9 et il y a aujourd'hui 6 juges conservateurs contre 3 dans le camp progressiste. Et comme la Cour suprême a un rôle à jouer absolument super important dans les institutions et dans la vie quotidienne des Américains, cette évolution est d'une importance infinie, d'autant plus que les juges sont nommés à vie. Donc les trois que, que Trump a nommés sont là pour très très longtemps. Et donc cette base conservatrice religieuse a voté Trump parce qu'il y avait eu ce deal. Et ils sont très très contents que ce deal ait été honoré par Trump. Ils ont revoté pour lui en 2020. Ça, c'était la première partie. La seconde partie de l'électorat de Trump, et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Et Michel Duclos en a parlé tout à l'heure. C'est cette classe moyenne américaine qui a été victime de la mondialisation. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont vu leur emploi partir en Chine ou au Mexique, qui ont vu leur identité de blanc de plus en plus moquée par les élites intellectuelles des côtes, de plus en plus, si vous voulez, ils sont dans une insécurité culturelle, pour prendre un terme un peu compliqué, mais que je l'emploie un peu facilement comme ça. Et donc, ils ont vu... Quand Trump est arrivé dans la campagne en 2016, ils l'ont vu arriver comme un, comme véritablement comme leur champion, leur promettant qu'il allait leur rendre leur dignité, qu'il allait leur rendre leur emploi, qu'il allait leur rendre leur grandeur dans l'Amérique. Alors, d'un point de vue sociologique, très précisément, cette base, on va l'appeler la base populiste pour la distinguer de la base conservatrice, elle est constituée par les classes moyennes peu ou pas diplômées. Le diplôme est ici le marqueur principal, beaucoup plus que le niveau de revenu. Ces gens ne sont pas nécessairement pauvres, ni même très pauvres. Ils sont dans le revenu médian. Ce qui compte, c'est qu'ils sont peu ou pas diplômés de l'éducation supérieure. Et ils sont très majoritairement blancs. Ça, c'est aussi quelque chose qui semble très évident dans les études. Sachant que en 2020, on a vu... à la marge des minorités latino et afro-américaines, un certain nombre de gens qui, eux aussi, votaient Trump. Et quand on les interrogeait, alors ça n'est pas très scientifique, mais enfin, des micro-trottoirs de sortie des urnes montraient un certain nombre d'Africains-Américains d'âge moyen, pas des jeunes, mais plutôt des personnes d'une quarantaine d'années, qui disaient qu'ils avaient voté Trump parce que leur commerce ou leur voiture avait été brûlée dans les manifestations antiracistes, enfin dans les débordements de manifestations antiracistes que j'ai évoquées tout à l'heure, et que du coup, eh bien, ils avaient voulu voter pour la loi et l'ordre, malheureusement.
Michel Duclos, en quoi ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, dont on voit que l'évolution, en fait, rien n'a changé, en fait, pratiquement depuis un an, cette société divisée, et surtout une démocratie mise à mal. Alors vous l'avez dit, les institutions ont tenu, mais il s'en est apparemment fallu de peu, ce qui est assez incroyable quand on relit les choses un an après. En quoi ce qui s'est passé aux États-Unis pour la démocratie nous dit des choses sur ce qui peut se passer pour la démocratie en Europe, qui plus est en France à quelques mois de l'élection présidentielle?
En France, on voit comme aux États-Unis... En France, c'est un milliardaire. Aux États-Unis, c'est plusieurs qui achètent des médias et qui jouent la carte de la radicalisation. Les polémistes deviennent très populaires et ils envisagent même de se présenter à la présidence de la République. Alors là, il y a un chassé-croisé assez amusant. C'est que chez nous, Zemmour a sauté le pas, donc il se met dans l'arène électorale. Aux États-Unis, son modèle, son archétype beaucoup plus célèbre et ayant eu beaucoup plus d'influence déjà, qui est Kirsten Tucker à Fox News, n'est pas encore candidat, mais au moment où on pensait que Trump n'allait plus l'être, on se disait, voilà, ce serait lui qui pourrait être le meilleur porte-parole de cette coalition des populistes et des conservateurs que mentionnait Laurence Nardon. Donc là, vous voyez, il y a effectivement, c'est classique que les pays d'Europe, et la France en particulier, suivent les États-Unis avec en général une décennie de retard. Là, ça s'est rapproché, et d'ailleurs... Pour les gens qui, comme moi, suivent les États-Unis depuis très longtemps, À vrai dire, il y a un côté un peu mystérieux, nouveau, c'est que pour la première fois, le paysage politique aux États-Unis et en Europe est relativement aligné. Avant, c'était quand même deux mondes très différents avec ce bipartisanisme, présidentialisme, etc. Enfin, il y avait une culture politique américaine qui était très distincte de la nôtre, même si nous finissions après 10 années par les suivre. Aujourd'hui, peut-être que c'est parce que les choses vont beaucoup plus vite et que donc les idées, surtout quand elles sont mauvaises, se répandent très rapidement. Mais aujourd'hui, au fond, le populisme, il se présente dans des termes assez comparables en Europe et aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas complètement étonnant que les mêmes phénomènes se retrouvent. Bon, en France, je vous dis les choses très simplement, je suis très inquiet par le phénomène Zemmour, parce que j'y vois une démission des élites qui était présente aux États-Unis. Cette démission des élites, c'est que, pardon si je suis un peu trop long, vous me coupez la parole, mais surtout que je ne suis pas du tout un universitaire ou un spécialiste, donc je dis les choses en termes peut-être un peu simplistes, mais pour moi, le populisme, c'est la levée du surmoi. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, peut-être tout le monde est raciste, mais jadis, vous aviez l'État, l'Église, le Parti communiste, les syndicats, un certain nombre d'instances de légitimité qui disaient « il ne faut pas être raciste ». Et c'est ça qui, au fil des temps, il y avait l'Église aussi, bien sûr, s'est petit à petit désagrégé. Et là aussi, c'est la même chose aux États-Unis. Et au contraire, vous avez des nouvelles instances de légitimisation qui disent « bah oui, finalement, c'est bien d'être raciste ». Et c'est à cela qu'on assiste, me semble-t-il, dans les deux continents.
Jean-Luc Poutier.
Oui, si vous me permettez de changer un peu de zone géographique, vous avez été ambassadeur à Damas. Un grand nombre des conflits qui ont agité le monde récent ont trouvé leur origine au Proche-Orient. Par rapport à la politique très pro-israélienne de son prédécesseur, est-ce que Joe Biden va faire un peu bouger les choses ou est-ce que c'est l'immobilisme qui prévaut dans cette région ?
Il n'a pas remis en cause, par exemple, la reconnaissance, enfin, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il n'a pas remis en cause la nationalisation du Golan. Bon, c'est certain que peu où M. Netanyahou était encore Premier ministre, il ne s'entendait pas très bien avec Biden, hein, ça c'est clair. Et il est clair que l'administration Biden n'ira pas aussi loin que Trump dans la collusion, mais en même temps, ils vont pas non plus. C'est une administration qui sera classique, qui ne va certainement pas brutaliser Israël. J'ajoute que Biden, ayant eu le souhait, comme ses prédécesseurs, de se désengager des affaires du monde, est rattrapé par les affaires du monde. Et tous ces présidents américains récents ont voulu se retirer du Proche-Orient, mais les Proche-Orientaux sont là pour les ramener à eux. Et là, pour l'instant, c'est la crise en Iran qui est en train de monter et qui va à nouveau faire apparaître la relation israélo-américaine comme centrale.
Laurence Nardon, pour conclure, en quoi effectivement cette crise de la démocratie américaine qui a été mise à mal, a quelque chose à nous dire sur ce qui se passe en Europe ou ce que ça pourrait dire sur les autres démocraties occidentales. Michel Duclos l'évoquait tout à l'heure, souvent ce qui se passe aux États-Unis, et ça se passe 10 ans avant l'Europe, là ça semble s'accélérer. On n'oublie pas non plus que la démocratie américaine est venue aussi des penseurs français, notamment, je pense à Alexis de Tocqueville, etc. En quoi ce qui se passe là-bas peut être une alerte, au fond, pour les autres démocraties?
Ouais, et je voudrais, alors je ne vais pas redire ce qu'a dit Michel Duclos, mais je pense un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est tous, à mon avis, pris dans un moment politique et historique qui est mondial. Enfin, oui, parce que ça va, j'allais dire, c'est Occident. Non, parce que si on regarde l'Inde et la Chine, c'est un peu la même chose. Et que je lirais comme ça, c'est-à-dire que On est dans un moment où les opinions publiques ont envie, alors à tort ou à raison, hein, envie de fermeture. Et de fermeture aussi bien sur les questions, par exemple, de commerce ou d'industrie. On compte plus le nombre de programmes politiques qui prétendent ramener les usines chez nous pour qu'il n'y ait plus de chômage. Donc, ce serait la fin du libre-échange, mais aussi la fin des mouvements de population avec... Enfin, ce terme de grand remplacement qui se balade comme ça dans les médias français, il existe aussi aux États-Unis. Et donc, on est dans ce moment-là, il faut faire avec. Mais je voudrais aussi dire quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que on dit que les États-Unis ont 10 ans d'avance, et c'est effectivement souvent vrai. Mais je pense qu'en ce moment, avec ce rétrécissement de la vitesse de propagation, en fait, ça met en lumière un phénomène que je trouve un élément que je trouve très intéressant, qui est les différents types de valeurs ou d'idées politiques qui sont échangées entre l'Europe et les États-Unis. On parle toujours de l'Europe et des États-Unis comme partageant les valeurs des Lumières, notamment la France. La France et les États-Unis ont un système politique qui est né la même décennie, dans les années 1780. Leur constitution est toujours la même. Nous, c'est 1789, notre point de départ en tant que nation moderne. Voilà, donc on a ça en partage, et on a Tocqueville, on a Rousseau, on a Locke, enfin, on a tous les penseurs des Lumières qu'on se partage, avec des valeurs qui sont toujours mises en avant quand vous avez des présidents qui font des grands discours de part et d'autre de l'Atlantique. Et c'est très bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi un échange, alors, de valeurs, entre guillemets, à l'extrême droite. Renaud Camus est extrêmement lu aux États-Unis, et nous-mêmes, nous lisons Ayn Rand, qui est cette penseuse libertarienne, d'ailleurs extrêmement anti-religieuse, qui a un succès fou aux États-Unis, qui est un petit peu plus pour connaisseurs en France, mais enfin, c'est quand même quelqu'un dont on cite le nom. Voilà, donc ce que je veux dire par là, et je vais m'arrêter, c'est qu'il y a comme ça des lignes d'échange de valeurs très différentes, mais il y en a plusieurs entre les États-Unis et l'Europe.
Et on pourrait dire que Philippe de Villiers se croit enraciné dans les valeurs du bocage. En réalité, il est dans le sillage de penseurs américains.
François Evé, vous avez organisé cette soirée avec Jean-Luc Poutier. Nous arrivons au terme de ce débat. Quelle synthèse pouvez-nous faire de l'échange de ce soir sur ces un an de l'assaut du Capitole et la situation des États-Unis ?
Alors, je ne sais pas si, en rebondissant sur la dernière remarque de Michel Duclos, on pourrait dire que la mondialisation est à l'œuvre et que, de fait, c'est un phénomène que nous vivons partout. Je retiens une première chose de cette soirée, c'est que les motifs d'inquiétude ne manquent pas. Qu'après, effectivement, l'espoir soulevé par l'élection de Joe Biden, qui semblait avoir inversé un mouvement qu'on voyait partout dans le monde, le durcissement de la politique de Vladimir Poutine, l'élection de Bolsonaro au Brésil, il y avait eu antérieurement Duterte aux Philippines, on voyait un peu partout l'émergence de ce phénomène populiste, et là, apparemment, ce phénomène paraissait résistible, puisque Donald Trump succédait à Joe Biden. Mais effectivement, les résultats ne sont pas encore tout à fait palpables, pour le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas entièrement de sa faute, sans doute, mais en tout cas, c'est un fait. Et il y aura des élections bientôt, des élections de mi-terme, et on peut craindre que les Républicains l'emportent et qu'à ce moment-là, Biden soit vraiment coincé. Néanmoins, il y a quand même, on l'a noté... le rôle des institutions qui ont résisté, le rôle des contre-pouvoirs, enfin, là aussi ça peut être un exemple pour nous, même si on a noté aussi des fragilités à ce niveau-là. Ce que je retiens aussi, alors peut-être plus largement que les États-Unis, mais l'intérêt de l'étude des États-Unis, c'est que c'est peut-être un sort de miroir grossissant de ce que nous connaissons aussi. Enfin, il y a un côté un peu excessif, on peut dire, qui peut être intéressant pour nous, parce que ça donne des représentations de phénomènes que nous éprouvons aussi. Je trouve que ce qui est frappant dans ce mouvement populiste, c'est le sentiment de, d'être méprisé par les élites. C'est un point qui m'a beaucoup frappé dans un reportage récent d'Arte sur les événements du 6 janvier. L'interview des soutiens de Donald Trump, qui étaient, comme dit Laurence, tout à fait sincères dans leur expression que l'élection avait été volée. Mais ce qui m'a frappé dans leurs paroles, c'est le sentiment d'être laissé pour compte, méprisé. Alors, on se souvient des malheureuses expressions de Hillary Clinton il y a 6 ans, d'être par une élite. Alors, qu'est-ce que l'élite? Évidemment, on peut en discuter de ça, mais en tout cas, voilà, la nécessité de... Et Trump, effectivement, a rendu, à tort ou à raison, peut-être pour une part à tort, mais peu importe, la fierté à ces personnes. C'est quand même un élément à prendre en compte, et chez nous en particulier, je crois qu'il y a certaines paroles parfois malheureuses de nos instances politiques qui risquent d'être interprétées dans ce sens-là. Peut-être un dernier mot. Laurence a souligné que les bases électorales de Donald Trump, c'était entre autres ces classes moyennes peu diplômées, ou c'est une base religieuse, pas forcément portée au sens critique non plus. L'importance, alors c'est peut-être banal de le dire, mais il faut le redire, l'importance de la formation, de l'éducation, au sens critique, parce que c'est finalement peut-être le meilleur rempart ou la meilleure défense de la démocratie, le meilleur rempart contre le populisme. Alors, dans un établissement d'enseignement, on ne pouvait que défendre la formation au sens critique.
Merci François Auvet, immense merci à vous Laurence Nardon. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les États-Unis de Trump en sans question, édité chez Taillandier en 2018. On peut aussi vous lire ce mois-ci dans la revue Études avec un article passionnant baptisé Un an après sa victoire, où en est Joe Biden. Il y a aussi bien sûr votre podcast intitulé New Deal à retrouver sur slate.fr et toutes les plateformes de podcast que vous utilisez. Merci à vous, Michel Duclos. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et que vous venez de publier en 2021 La France dans le bouleversement du monde aux éditions de l'Observatoire. Grand merci à vous, Jean-Luc Poutier et François Auvet, sans qui ce débat de ce soir n'aurait pu voir le jour. Et puis je vous rappelle que si vous avez pris cette émission en cours ou si vous souhaitez la podcaster ou la partager à vos amis, vous pouvez bien sûr vous rendre sur rcf.fr. Voilà. Vous avez la parole pour des questions à Laurence Nardon et Michel Duclos, que vous soyez ici ou sur YouTube, parce que vous pouvez aussi vous poser vos questions sur le chat de YouTube.
Alors, l'habitude, c'est de prendre 2 à 3 questions. Voilà, donc un micro va circuler. Donc, vous levez la main déjà, vous repérez, voilà, déjà 2 mains qui se lèvent, les micros vont arriver. Vous avez le micro. Voilà. Alors, relevez la main. Attendez, Franck. D'accord, il y a 2 micros, parfait. Alors, allez-y, en 5e rang. Relevez la main. Voilà.
Ah, le micro marche. Un autre micro arrive par votre gauche, monsieur. Voilà. On vous écoute.
Pouvez-vous nous dire s'il y a ou s'il n'y a pas d'action judiciaire encore pendante contre Donald Trump à la suite des événements de janvier 2001? Et est-ce que ces actions peuvent aboutir à quelque chose si elles existent? Deuxième question, qui est très différente. On sent bien qu'aux États-Unis, l'inquiétude devant le renforcement de la puissance chinoise est considérable. On prête à la Chine, d'ailleurs, elle qui a déjà organisé des tests assez impressionnants sur Taïwan, l'idée peut-être de les accroître dans les années qui viennent ou les mois qui viennent. Est-ce que cela peut avoir des conséquences aux États-Unis même sur l'attitude des républicains vis-à-vis du gouvernement de Joe Biden et de son administration? Merci.
Merci. Alors, il y avait, pour repasser le micro, il y avait une main qui s'était levée du côté droit, de mon côté droit. Non? Bon, madame. Alors, dans le fond.
Oui, bonjour. bonsoir plutôt. Je voulais savoir si aux États-Unis, vraiment ce phénomène qu'on appelle, j'allais dire en France, mais non, le wokisme, voilà. À chaque fois qu'il est fait référence au wokisme dans les médias, il est dit que ce mouvement, cette idéologie plutôt vient des universités américaines, etc. Alors, bon, je voudrais savoir quelle est vraiment l'ampleur de ce phénomène. Est-ce que toutes les universités sont concernées? Est-ce que comment ce mouvement, cette idéologie est-elle perçue par les Américains eux-mêmes? Est-ce qu'elle suscite des réactions? Est-ce qu'elle, au contraire, est-ce qu'elle s'appuie sur une très forte approbation d'une partie très importante de la population? Et dans quel milieu? Enfin voilà, c'est...
Voilà, bon, on va peut-être en rester là parce qu'il y a fait trois questions. Et puis après ça, bon, on verra s'il y en a des questions sur YouTube. Alors peut-être on commence par l'élection judiciaire contre Trump, Laurence ?
Oui. Alors Trump fait face à beaucoup d'actions judiciaires en dehors du 6 janvier. Déjà, c'est juste pour en préalable sur ces questions de fraude fiscale et d'histoires de corruption, etc. Il est déjà poursuivi pour pas mal de choses, donc à titre privé. Dans l'État de New York et dans... il est poursuivi par le procureur de New York et le procureur de Manhattan. Donc il y a tout un tas d'histoires déjà comme ça, mais comme c'est très compliqué, je ne rentre pas plus dans les détails. En ce qui concerne le 6 janvier, il y a eu, si vous voulez, un procès politique, c'est-à-dire une procédure d'impeachment qui a été lancée au Congrès. Il a été mis en accusation par la Chambre des représentants et ensuite le Sénat l'a acquitté. C'était la deuxième fois. C'est le président qui a été quand même... qui a subi cette procédure deux fois, une fois pour l'Ukraine en 2019 et une fois pour les événements du 6 janvier début 2020. Les deux fois, il a été acquitté par le Sénat parce que c'est un procès qui se passe au Congrès. C'est donc un procès politique. Et comme au Sénat, il n'y avait pas le nombre requis de voix contre lui, il en fallait 60 sur 100, eh bien les deux fois, finalement, il a été acquitté. Mais il pourrait maintenant y avoir... un procès mené par les instances judiciaires. Et pour cela, il faudrait que ce soit déclenché par le département de la justice. Le département de la justice, aujourd'hui, attend les résultats de la commission d'enquête qui est en cours à la Chambre des représentants, vous savez, qui est menée par... dans laquelle Nancy Pelosi est assez active. C'est la chef, c'est la speaker démocrate de la Chambre. Et donc cette commission, c'est celle dont on entend parler dans la presse régulièrement. Elle auditionne des gens, elle essaye de faire la lumière sur les événements. Et elle monte un dossier contre Trump pour montrer à quel point il avait préparé cette prise de pouvoir. On peut peut-être parler de putsch, enfin, qui a échoué le 6 janvier, mais il avait quand même préparé des choses concrètement à l'avance. Et puis le 6 janvier même, les témoins commencent à dire qu'il était devant sa télé en train de dire que c'était merveilleux tout ce qui se passait au Capitole. Voilà, donc ça fait des éléments qui vont s'ajouter dans un dossier que cette commission, quand elle conclura ses travaux, enverra au département de la justice, qui peut éventuellement lancer une procédure, mais alors là, ce ne sera plus une procédure politique comme au Congrès, ce sera une procédure judiciaire proprement dite. Donc on n'est pas au bout de cette affaire. Chine-Taïwan,
Michel Duclos. Alors,
sur la Chine, c'est très simple. La Chine, aujourd'hui, est en train d'étrangler Taïwan progressivement. Il n'y aura pas d'attaque militaire, au moins dans l'année qui vient, probablement dans les années qui viennent. D'autant plus que, en même temps, la Chine commence à développer ses capacités nucléaires de façon à se doter d'un arsenal suffisant pour dissuader les États-Unis, non pas sur le plan global et ça, mais au moins en Asie, et ainsi prévenir une intervention américaine forte en cas d'attaque de la Chine sur Taïwan. Mais tout ça prendra un certain nombre d'années. Donc le calcul pour l'instant des stratèges, c'est que ce n'est pas dans l'immédiat qu'on peut assister à une attaque de la Chine contre Taïwan. Maintenant, la fin de votre question, c'était qu'est-ce que ça signifie pour la politique intérieure américaine? Ça signifie au fond que lorsque Biden mène une politique chinoise conforme au consensus national, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour lui faire gagner des voix. c'est si il n'était pas assez ferme, qu'il perdrait des voix. Mais tant qu'il n'y a pas de crise ouverte, au fond, il ne tire pas de grand crédit interne de la politique de fermeté à l'égard de la Chine.
Si on, j'ajoute, si on était tout, totalement cynique, je ne veux pas croire que Biden le soit, mais enfin, il pourrait souhaiter une crise avec la Chine, parce que ça pourrait permettre justement effectivement de faire nation aux États-Unis. C'est peut-être la seule chose qui lui donnerait des voix chez les Républicains. Mais je peux peut-être enchaîner avec le wokisme. Alors, le wokisme, en effet, c'est un peu un épouvantail. On met un peu ce qu'on veut dedans. Mais bon, si on essaye d'être vraiment précis, c'est une idéologie qui est apparue aux États-Unis dans les universités depuis longtemps, en fait, avant même que ça prenne ce nom. En fait, le terme wokisme vient de toute autre part. C'est un mot d'argot qui était utilisé par la communauté afro-américaine dans les années 70, je pense sur la côte Est, et c'est une déformation du participe passé de awaken, enfin bon bref, être éveillé, et parce que quand on était woke, ça voulait dire qu'on était conscient des problèmes raciaux dans le pays, et c'était donc un terme employé par les afro-américains. Détour par les universités qui se sont mises... après la lecture des travaux des philosophes français émigrés aux États-Unis comme Michel Foucault, à voir le monde de manière très manichéenne, d'une seule manière, le monde est constitué de dominés et de dominants. Alors les dominants, c'est facile, c'est les Européens, plutôt les hommes, âgés, etc. Bon bref, et puis tous les autres sont des dominés. C'est très facile finalement de voir le monde comme ça. Après, on complique les choses en disant qu'on peut être dominé de plusieurs manières. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc, par exemple, si on est une femme, on est dominé, mais si on est noir, on est dominé. Donc, si on est une femme noire, on est à l'intersection. Intersectionnalisme, c'est le mot carrefour en fait. Ça veut dire qu'on est au carrefour de deux discriminations. Et donc ça peut s'additionner si vous êtes handicapé, si vous êtes pauvre, enfin vous pouvez additionner comme ça. Donc ça c'est une lecture du monde, et à la limite, pourquoi pas, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait exactes dans cette lecture du monde, c'est sûr. Le problème c'est que c'est une lecture qui est un peu trop totale, absolue, et surtout qu'elle s'assortit d'une exigence de justice et de réparation. Et donc là, ça se complique parce que y a des coupables, et les coupables sont, il y en a toujours, et la rédemption ne leur est pas offerte. C'est-à-dire que voilà. Pour achever ma réponse, je pense que c'est un épouvantail qui est brandi par les chroniqueurs républicains conservateurs, parce que c'est effectivement très facile à identifier et à dénoncer. Je crois que les tenants de cette idéologie woke sont dans les universités, c'est vraiment pas grand public, en fait.
Alors, continuons dans les questions. Philippe, il y a des questions sur YouTube.
Non, là, je
bon, alors, la salle.
Il y avait un monsieur au fond.
Voilà, exactement. Poser une
question. Oui, je reviens sur vos propos.
Ici.
C'est bon, allez-y.
On vous entend.
Bon. Je l'ai enlevé. C'est bon.
Il faut mettre le masque.
Ça passe au travers du masque, donc pour faire plaisir à l'âme. Je garde mon masque. Donc, je reviens sur vos propos du début de votre conférence où je ressentais un peu une espèce de déception par rapport au mandat et au début de mandat de Monsieur Biden. Et ça me renvoie un petit peu au rôle des médias qui nous donnent, qui nous-mêmes nous renvoient l'image de l'action du président des États-Unis. Et quand je vois le rôle que les médias, ou plutôt quand j'ai le souvenir du rôle des médias et des réseaux sociaux à la fin du mandat de Trump et la manière dont ils ont pris position contre Trump, enfin, si mes souvenirs sont bons, je voudrais savoir quel rôle jouent les médias aujourd'hui dans l'appréciation et dans la popularité président américain.
Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Alors, allez-y, oui. Attendez le micro. Il arrive.
Voilà.
Il est à côté de vous.
Je vis dans la nature, hein, mais quand même, premièrement, mais c'est pas des questions, je peux pas ne pas les sortir là. Est-ce que les projets osés de Joe, américain, sont du genre ébauche de démocratie économique? On n'en parle jamais. Voilà. Un seul rouage économique, comment on peut s'en sortir? Mondial. Bon, ça. Et puis, j'ai pris des... La pauvreté, c'est la pire des violences. Violence. La pauvreté, et c'est vrai, concrètement, c'est vraiment la pire des violences. Les emplois d'Amérique précaires, c'est du genre en France, jusqu'ici et surtout maintenant, précaire. Ah, le chômage baisse. Bon, et excusez-moi, je n'engage que moi, ça va pas loin.
On vous laisse conclure votre question, madame.
Est-ce que virus 19, guerre chimique mondiale?
Merci. Alors,
le rôle des médias?
Le rôle des médias, oui.
Oui. Le rôle des médias, sont-ils justes avec Biden ou pas? En fait, il faut voir que, comme je le disais tout à l'heure, le paysage médiatique aux États-Unis, il est très polarisé aussi. Et on a le défaut, alors je ne sais pas si Michel sera d'accord avec moi, mais nous, en France, on a l'habitude de lire plutôt le New York Times. Si on s'intéresse à la presse américaine, bien entendu, on va lire le New York Times et le Washington Post, qui sont en fait des journaux très à gauche. Et d'ailleurs, et pas assez woke, madame, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Et donc, on a l'impression que... Non, on n'a pas l'impression. Ils sont assez critiques de Biden, justement, parce qu'ils pensent qu'il n'est pas assez à gauche. Et dans le paysage médiatique américain, il y a beaucoup de médias qui sont, pour le coup, très à droite. Par exemple, la chaîne Fox News, dont on parlait tout à l'heure, d'innombrables sites en ligne et de radio en ligne. De radio pas en ligne, de radio tout court. Je réponds à votre question, mais je réfléchis en même temps. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui sont très positifs sur Biden en ce moment, et ça doit participer de sa baisse de popularité.
Voilà. Peut-être juste une question. On sait que Donald Trump, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, a été exclu de Facebook et de Twitter, qu'il est en train de créer son propre réseau social, baptisé Truth, sur lequel il a levé plus d'un milliard de dollars. Est-ce que ça a une chance de pouvoir aboutir? Enfin, dans votre article, vous dites que ce n'est pas forcément sûr. C'est...
Oui, sur Trump et les médias, Trump tient toujours le parti républicain. Il récolte beaucoup d'argent. Il veut sans doute se représenter en 2024. Donc, il ne faut pas du tout le rayer de la carte. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il ne domine plus le cycle de l'actualité comme il le faisait quand il était président. Quand il était président, et même avant, pendant la campagne, on se réveillait tous les jours avec la dernière déclaration de Trump, le dernier scandale, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, les personnes qu'il avait insultées, etc. Enfin, il y avait une sorte de sidération de tous les médias américains et même dans le monde pour ce personnage. Et ça, aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus président et qu'il n'a plus ses réseaux sociaux, ça n'est plus le cas. Donc il n'est pas encore parti, mais il est beaucoup moins présent dans le quotidien politique des Américains. Et j'ajoute un truc sur ses réseaux sociaux. Donc il est en train de créer Truth. Cet été, il en avait créé un autre de manière très temporaire qui s'appelait Get Together. Enfin, bon, bref. Le problème des réseaux sociaux du réseau social que veut créer Trump, donc une sorte de Twitter qui serait à sa botte, c'est que comme il veut que la parole soit libre sur ses réseaux, parce que c'est la liberté d'expression vue par l'extrême droite, donc il ne faut pas trop de modération pour que les gens puissent avoir des propos virils s'il le faut, enfin insulter tout le monde, etc. En fait, le problème qui se pose sur les réseaux sociaux quand vous avez une très faible modération, c'est-à-dire que pour faire en sorte que les gens puissent dire ce qu'ils veulent, c'est que vous avez très rapidement des gens très 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 problématiques qui viennent s'exprimer sur votre réseau. Je prends l'exemple de ce réseau, donc ça s'appelle Get Together, mais ça s'écrit G-E-T-T-R. C'est le réseau qu'il a lancé en juillet dernier et dont il a dû partir au bout de quelques semaines. Parce qu'en fait, sur ce réseau sont arrivées immédiatement des images pornographiques et des images de terroristes. Les gens de Al-Qaïda ont posté sur le réseau de Trump des images de décapitation, des propos ultra-violents appelant au meurtre des Américains, etc. Et donc, le réseau a périclité en quelques semaines. Et donc, je pense que pour le prochain, il faut absolument, s'il veut que ça marche, qu'il règle ce problème. Parce que, oui, mais donc, il faut une modération, mais ça, c'est contre l'ADN du réseau que veut créer Trump. Donc, il n'est pas sorti de l'auberge. Voilà.
Mais... Michel Duclos, sur les médias et le regard des médias sur Biden.
Non, j'ai rien à ajouter. Je trouve que ce que disait Laurent, c'était passionnant et tout à fait convaincant. Quand Trump était à la Maison Blanche, moi-même, je disais, il faut aller vraiment de temps en temps sur place parce qu'on ne peut plus suivre l'actualité par les médias. Quoi. Ils sont devenus trop partiaux et ils ne donnent pas une image fiable. Et tout ce que faisait Trump était systématiquement critiqué, etc. Et en réalité, en écoutant Laurence, on s'aperçoit que c'est pas tellement différent avec Biden. Et donc, il faudrait pouvoir de nouveau voyager aux États-Unis. Malheureusement, là, pour le coup, la Covid nous l'interdit pour l'instant.
Je pourrais ajouter quelque chose pour répondre à madame. Oui. Il avait l'air d'appeler de ses voeux une démocratie plus de justice sociale et plus d'égalité économique. J'ai donc dit tout à l'heure que Biden faisait ce que Trump et Obama avaient voulu faire, mais n'avaient pas fait, sur les questions économiques. C'est-à-dire qu'il a rompu avec 40 ans de réganisme d'ultra-libéralisme, je crois qu'on peut vraiment employer ce terme-là, pour essayer de remettre en route plus de justice sociale avec son plan Build Back Better, etc. Et donc, il en a passé une partie, il va essayer de passer l'autre partie, ça va être très très compliqué. Mais je voudrais ajouter un point qui est vraiment terrible, c'est qu'au moment où on a un président qui se lance dans cette aventure de la relance publique, du keynésianisme, de la justice sociale dans le pays, voilà qu'apparaît l'inflation. Ouais. Et ça, c'est vraiment terrible pour les Américains, pour les classes moyennes américaines, et y compris celles qui ont voté Trump. Le fait qu'il y ait 6% d'inflation en 2021, 6% c'est beaucoup, c'est vraiment des chiffres qui n'ont pas été vus depuis les années 80, eh bien ça, à mon avis, c'est vraiment terrible que Biden, avec cet effort Build Back Better, se trouve face à de l'inflation, parce que s'il y a bien quelque chose qui peut faire capoter ce retournement d'idéologie politique et économique, c'est l'inflation.
Voilà. Jean-Luc, oui.
Oui, pour prolonger ce qui a été dit sur la pauvreté, François Hévé a évoqué tout à l'heure un documentaire d'Arte sur la droite extrême américaine. Dans ce documentaire, un reporter va interroger chez eux des dirigeants de groupuscules, enfin plus que de groupuscules, de groupes d'extrême droite extrêmement violents. Hein, ce sont des gens qui manifestent avec des fusils mitrailleurs à l'épaule, hein, quand, sans que ces manifestations-là soient interdites en raison de la loi sur les armes aux États-Unis. Or, quand il va les voir, il rencontre des gens qui vivent dans des conditions absolument misérables. Hein, dans une très grande pauvreté. Donc, quel est sociologiquement le lien entre cette appartenance à des idéologies d'extrême droite et les conditions de vie de ces personnes ?
Alors, c'est difficile de vous répondre parce que, comme vous le disiez, ces gens d'extrême droite dans les groupuscules sont tellement peu nombreux qu'il n'y a pas une cohorte étudiable par les sociologues. Cependant, on pourrait penser que certains d'entre eux, ils ont un positionnement anti-élite, ils ne vont pas vivre dans les grandes villes, mais plutôt dans les régions éloignées. Et je pense notamment d'abord au Grand Ouest, où il y a pas mal de survivalistes qui vivent dans les bois en essayant de se débrouiller tout seuls et qui sont parfois très à gauche, mais parfois aussi très à droite. Il y a des groupuscules néo-nazis dans le Grand Ouest, dans le Nevada notamment, mais je dirais peut-être dans le Wyoming aussi. Voilà. Montana. Mais il y a aussi. Montana, c'était le nom que je cherchais. Mais il y en a aussi. Il y a aussi une pauvreté blanche extrême dans les Appalaches. C'est d'ailleurs très intéressant. Donc les Appalaches, c'est cette région qui est région montagneuse qui est le long de la côte est, un petit peu dans les terres. Très beau d'ailleurs. Il y a la Shenandoah Valley par exemple. C'est là qu'est née la folk music et le rhythm and blues. Bon bref. Et il y a dans cette région une population blanche d'une pauvreté extrême. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous dans des groupuscules néo-nazis, absolument pas, mais il y en a certainement qui sont dans cette région-là. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je crois que c'est un petit peu trop pointu après. Donc,
Attendez, on va peut-être... Oui. Oui, très souvent. Alors, est-ce qu'il y a encore une question au milieu ? Il y a une question au milieu de la salle. Je pense qu'on va en rester là. Parce qu'on atteint.
Oui, une question simplement. Il a été souligné les similitudes qu'on peut trouver entre la vie politique aux États-Unis et la vie politique en France. Alors une question, est-ce que les citoyens de base, les électeurs de base, ont aux États-Unis comme en France un désintérêt croissant pour les scrutins ?
Ah, voilà. Sur l'abstentionnisme aux États-Unis, oui, c'est un dossier.
Ils ont été en avance là, de ce point de vue-là. Ils ont toujours été plus abstentionnistes.
Oui, l'abstention aux États-Unis, elle est traditionnellement plus forte qu'en France. Enfin, alors, il faut se méfier des méthodes de calcul, parce que chez nous, on compte les abstentionnistes, alors qu'aux États-Unis, ils comptent ceux qui ont voté. Donc, ça fait un... Bref. Mais il y a plus d'abstention. Parce que d'abord... Enfin, il y a mille raisons, mais je vous en donner juste une ou deux. D'abord, le pays est très grand et voter pour des gens qui vont à Washington, c'est comme pour nous voter pour l'Europe, si vous voulez. C'est beaucoup moins... Il y a un sentiment de distance par rapport aux institutions de Washington quand on est dans le reste du pays. Donc, le niveau auquel il faut le comparer, pour nous, c'est Bruxelles, si vous voulez. Donc, ça fait qu'on va moins voter. Et par ailleurs, c'est plus difficile de voter parce que c'est un mardi, c'est pas un jour férié, il faut y aller. Les bulletins de vote font des pages et des pages parce qu'en fait, on n'élit pas juste le président ou un député, mais on élit le député, le sénateur, mais aussi tous les responsables locaux de l'État, de la ville, du comté sont élus le même jour, le premier mardi de novembre. Et donc, faut vraiment prendre sa journée, quoi. Donc, ça explique... il y a d'autres facteurs, mais voilà, je m'arrête là.
Michel Duclos, un dernier mot et on va conclure cette soirée.
Donc, peut-être pour dire que, évidemment, on a tous été frappés par les images de la débâcle de Kaboul. Et d'autant plus que ça nous rappelait les images de la chute de Saïgon. Or, Saïgon, c'était 1975, je crois, et donc 15 ans plus tard, les Américains gagnaient la guerre froide. Et donc... Et on peut pas considérer que l'histoire est écrite. Il peut se passer beaucoup de choses. Cependant, et on se souvient de l'Amérique de l'époque du Vietnam, qui était quand même déjà à la fois très décrédibilisée sur le plan international et extraordinairement divisée sur le plan intérieur, et déjà très violente. Les manifestations violentes se multipliaient. Simplement, si en 15 ans, l'Amérique était capable de se remonter pour battre le communisme, ça prouve qu'il y avait des ressorts internes qui n'étaient pas discernables sur le moment, mais qui sont révélés très puissants. Est-ce qu'aujourd'hui, la société américaine dispose encore du même type de ressorts pour faire face aux défis actuels? C'est un peu la question que on peut se poser.
Et on va se quitter sur cette question. Immense merci encore à vous deux. Et avant de quitter...